Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Si le leader de l'opposition envisage de s'accorder dans les meilleurs délais sur un candidat commun de l'opposition à une élection présidentielle crédible. Cette déclaration est contenue dans un communiqué signé hier mercredi à Bruxelles par Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito et Antipas Mbusa Nyamwesi. Ces leaders de l'opposition rejettent aussi la machine à voter qui, selon eux, viole la loi électorale. Ils exigent le nettoyage du fichier électoral afin d'identifier et extraire plus ou moins 10 millions d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale. Quel est le pied faire de cette déclaration? C'est l'objet du débat de ce soir et nous avons dans cette émission Maître Peter Kazadi, directeur de cabinet adjoint du président de l'UDPS en charge des questions politiques, juridiques et administratives. Bonsoir Maître Peter Kazadi. Voilà, il va nous rejoindre. John Banzalunda, secrétaire général du parti Les Fédéralistes et membre de la majorité présidentielle. Bonsoir Monsieur John Banza.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et Joseph Kongolo, analyste politique, il est aussi coordonnateur du bureau d'études, d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Bonsoir, Monsieur Joseph Kongolo.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Six ténors de l'opposition conviennent de désigner un candidat à l'élection présidentielle dans le souci de maximiser les chances de la gagner et répondre aux attentes de la population de vivre une véritable alternance. Cette déclaration est contenue dans un communiqué signé hier mercredi à Bruxelles par Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito et Antipas Mbusa Nyamwesi. Ces leaders de l'opposition ont réaffirmé la nécessité que ce processus aboutisse le 23 décembre 2018 à la tenue d'élections libres, démocratiques, transparentes et inclusive, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre et au calendrier électoral. Mais ils refusent de cautionner toute parodie d'élection. Blaise Makassi nous fait l'économie de leur communiqué.
Ces leaders de l'opposition ont convenu de s'accorder en vue de la désignation irréversible, dans les meilleurs délais, sur une vision partagée et un programme harmonisé du candidat commun de l'opposition à une élection présidentielle crédible. Ils promettent de mettre en commun leurs efforts ainsi que ceux de la société civile pour obtenir la tenue des élections crédibles, transparentes et inclusives. Ses opposants demandent le déploiement d'une force régionale de la SADC pour sécuriser les processus électoraux, les candidats et la population. Ils plaident aussi pour la participation de la MONUSCO au processus électoral pour le transport du matériel et les facilités logistiques. Ces leaders de l'opposition réunis à Bruxelles rejettent aussi la machine à voter qui, selon eux, viole la loi électorale. Ils exigent le nettoyage du fichier électoral afin d'identifier et extraire le plus ou moins 10 millions d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale. Les participants à cette réunion recommandent aussi la mise en œuvre immédiate des mesures de décrispation politique conformément aux dispositions de l'accord du 31 décembre 2016.
Merci à vous Blaise Makassi, Maître Peter Kazadi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de cabinet adjoint du président de l'UDPS en charge des questions politiques, juridiques et administratives. Et quel sens vous donnez à la réunion des six leaders de l'opposition hier à Bruxelles?
D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer les Congolaises et les Congolais qui nous suivent et en même temps saluer mes électeurs de Moamba. Par rapport à la déclaration des leaders politiques, vous savez qu'ils n'ont fait que décrire la situation politique de l'ère. Tous les points relevés dans les communiqués, c'est dans les soucis d'aboutir à un processus transparent, inclusif. On ne peut pas comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, alors que à l'issue du dialogue de la CENCO, le principe était que ces processus devaient être consensuels. Aujourd'hui, nous assistons à ce qu'on peut appeler l'unilatéralisme de la CENI, qui s'est fait accompagner dans sa démarche par la famille politique de M. Joseph Kabila. Raison pour laquelle ces leaders se sont rencontrés en Belgique, et on a fait ce qu'on peut appeler une sonnette d'alarme pour que les gens de bonne foi de partout puissent venir accompagner les peuples congolais dans ce processus que nous voulons, crédible, transparent, de sorte qu'à la fin qu'il n'y ait pas des drames comme nous en avons toujours connu dans ces pays. Vous vous souviendrez que lors des premières élections dans ces pays, il s'en est suivi mort d'hommes en plein centre-ville de Kinshasa. Il y a eu des morts tout simplement puisque les élections étaient mal organisées, il n'y avait pas la transparence. En 2011, la même chose s'est reproduite et nous voulons que cette fois-ci, si ces revendications donc sont suivies, et que nous puissions connaître des élections dignes qui peuvent aboutir à une fête au terme de ces élections-là.
Voilà, vous dites que le souci, c'est d'aboutir à un processus transparent. Mais la plus grande annonce attendue, n'est-ce pas, de la réunion d'hier, c'était la désignation des candidats communs. Mais cela n'a pas été fait. Pourquoi?
Oui, puisque ce n'était pas le moment indiqué. Vous savez, nous attendons que la liste définitive de ceux qui se sont alignés soit rendus publics et ceux-là vont se retrouver, en tout cas tous ceux qui se reconnaîtront de l'opposition, ils vont se retrouver pour dégager un consensus. Mais au-delà de ce problème de la candidature commune qui est un problème réel, nous devons dès à présent savoir mutualiser nos efforts pour la transparence du processus. Puisque si le processus est lui-même biaisé, quels que soient les candidats communs que nous allons choisir, nous aurons dressé les lits de la tricherie, puisque la majorité en face, la majorité sortante bien sûr, est en train de préparer la fraude à grande échelle. Raison pour laquelle il est grand temps aujourd'hui que les leaders de l'opposition et l'ensemble du peuple congolais, nous puissions unir nos efforts pour revendiquer un processus beaucoup plus transparent.
Maître Peter Kazadi, comment vous expliquez l'absence à cette réunion des candidats de l'opposition tels que Martin Fayulu et professeur Freddy Matungulu?
Il se retrouve malheureusement à Kinshasa. Monsieur Fayulu particulièrement devait aujourd'hui, il a présenté son programme d'action au public. Il s'est fait qu'il n'était pas à Bruxelles. Ce sont ceux qui se sont retrouvés à Bruxelles. Ici, je dois vous informer, et d'ailleurs, vous êtes censé le connaître, que avant son départ pour l'Europe, le président Félix avait eu à tenir une réunion ici à laquelle avait participé M. Fayulu et tant d'autres leaders de l'opposition. Et au moment où je vous parle, il y a une équipe de l'opposition qui travaille sur les éléments de langage, sur des actions communes que nous allons devoir mener dans les jours qui suivent. Ça veut dire tout simplement que nous sommes en parfaite attente. La présence ou l'absence de M. Fayulu en Belgique et de M. Matungulu ne signifie pas qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé.
Voilà, et ces leaders qui se sont retrouvés hier à Bruxelles ont rappelé des préalables, notamment retrait, n'est-ce pas, de la machine à voter, nettoyage des fichiers électoraux, libération des prisonniers politiques. Maître Peter, c'est des questions auxquelles des réponses ont déjà été données. La CENI a dit qu'elle n'est pas prête, n'est-ce pas, à retirer cette machine à voter, et car elle n'a pas des plans B par rapport à cela. Et selon toujours la CENI, la publication en cours des listes provisoires des électeurs répond à cette exigence du nettoyage des fichiers électoraux.
Oui, c'est ça l'unilatéralisme que nous sommes en train de déplorer dans les chefs de M. Corneille Nanga, qui se caractérise par une arrogance presque semblable à tous ceux qui l'ont précédé. Vous savez, lorsqu'on accède à ces fonctions-là, les gens ont tendance à penser qu'ils sont devenus des dieux sur la terre. Ils se croient détenir les pouvoirs divins de décider sur des millions de Congolais que nous sommes. Aujourd'hui, Nanga est seul à défendre sa machine à voter, bien sûr avec ceux qui sont derrière lui de la majorité, qui pensent que leur survie politique ne tient qu'à cette machine à voter qui constitue en réalité leur électorat. Le plan B, nous sommes encore dans le plan A. Lorsque vous lisez le calendrier électoral de M. Nanga, vous trouverez nulle part où il est mentionné la machine à voter. Et les opérations d'impression des bulletins de vote et autres matériels, c'est les mois prochains, je crois. Donc nous sommes encore dans les délais. Il n'est pas question d'évoquer un plan B alors que le plan A n'est pas même encore entamé. Donc c'est tout simplement de mauvaise foi que M. Nanga est en train d'avancer ces arguments-là juste pour plaire à ceux qui les poussent à nous entraîner dans un processus totalement biaisé.
Maître Peter, la majorité au pouvoir voit à travers l'exigence, n'est-ce pas, de ces préalables, les manœuvres dilatoires, n'est-ce pas, de l'opposition pour retarder les processus électoraux.
Non, nous avons souscrit au calendrier électoral. Jusque-là, pour notre part, Nous respectons toutes les étapes telles que prévues. Nous avons déposé les candidatures à tous les niveaux. Nous sommes prêts à poursuivre. Et lorsque vous regardez les calendriers, comme je venais de le dire, ne prévoit pas l'existence de la machine à voter. Cette machine n'est reprise nulle part, ni dans la loi électorale, ni dans la constitution du pays, moins encore dans les calendriers électoraux. C'est la majorité présidentielle qui est, nul n'ignore d'où la provenance de cette machine. Nous avons appris que c'est le fils de l'un des membres de la majorité présidentielle qui est aujourd'hui membre de la commission électorale nationale indépendante, qui est l'inventaire de cette machine. Ils veulent couler leurs marchandises. Et pour cela, ils se croient autorisés à prendre tout un pays en otage. Donc c'est plutôt eux qui soutiennent quelque chose qui n'est ni dans la loi, ni dans les calendriers électoraux.
Merci John Banza Lunda, secrétaire général du parti Les Fédéralistes et membre de la majorité présidentielle. Comment vous réagissez à cette démarche de l'opposition à Bruxelles?
Vous pouvez constater avec moi toute la peine que M. Kazadi a eue à nous dire pourquoi il se retrouve à Bruxelles et quels sont les objectifs qu'ils sont en train de poursuivre. Il n'a rien dit. Il a parlé des généralités, il a balancé son argumentaire dans tous les sens sans nous dire exactement ce que le Congo peut attendre de cette rencontre. Il parle du consensus. Les consensus, vous les tirez d'où? Est-ce que notre constitution consacre les consensus comme étant le principe du respect de la loi? Monsieur Kazadi, vous êtes un avocat. Vous pouvez nous dire sur quelle base, aujourd'hui, vous pouvez déclarer que vous êtes démocrate et vous ne respectez pas les lois de la République. Et vous pouvez nous dire que vous vous déclarez être citoyen et que le civisme n'est pas de votre côté. Soyez honnête, vous nous dites ici que vous avez souscrit au calendrier électoral. Je suis étonné, puisque sur ce même micro, vous avez crié au scandale. Lorsque la CENI a rendu public le calendrier dit partiel, vous êtes sorti pour dire qu'il fallait un calendrier global. Et lorsque la CENI a rendu public le calendrier global, dites-nous les jours où vous avez accepté ce calendrier, si vous n'êtes pas allé à Genval pour comploter contre la République. Non, vous devez être honnête.
Vous rappelez les faits qui se sont déroulés en 2015.
Tout à fait. Et je suis en train d'expliquer. Il s'agit d'un processus. Il s'agit d'un processus et nous devons éclairer la lanterne de nos compatriotes. Vous, à la tête, vous avez appelé les populations à marcher dans la rue pour le respect de la Constitution. Vous n'avez pas oublié ça. Qu'est-ce que vous réclamiez? Que nous respections la Constitution, que le président Kabila ne se représente pas. Il a respecté la Constitution. Aujourd'hui, au nom de votre consensus, vous voulez que nous puissions violer la Constitution? Nous n'allons pas violer la Constitution. Vous avez manipulé les populations avec votre...
Là, vous faites allusion à quoi, monsieur Bazin?
Toutes les marches qui ont été organisées avec motif le respect de la Constitution. Aujourd'hui, nous avons respecté la Constitution et nous continuons à respecter la Constitution. Ils ont créé une histoire qu'ils appellent comité laïque des chrétiens, mais en réalité, c'est un comité de liquidation du Congo. Pourquoi? Parce que, en tête du front, il y avait un front qui s'appelait le Front pour le respect de la Constitution. En tête, il y avait le MLC. Et aujourd'hui, le MLC avait l'occasion ou a l'occasion de démontrer qu'il s'agit d'un parti où il y a des citoyens qui sont animés des vertus républicaines, qui doivent se plier lorsque la haute cour prend une position. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Il se retrouve à Bruxelles pour faire quoi? C'est pour un plan contre la République. Et contre la République, pourquoi? Parce que vous voulez empêcher que le peuple puisse se prononcer. Le peuple va se prononcer. Ce n'est pas à Bruxelles la source du pouvoir. C'est ici, à Massimanimba, c'est ici, à Kikwit, c'est à Dekessé que viennent les voix de nos populations.
Monsieur John Banza, l'opposition revient souvent, monsieur John Banza, s'il faut revenir, n'est-ce pas, sur les préalables qui ont été rappelés par l'opposition, et cette opposition revient chaque fois sur des préalables tels que les retraits de la machine à voter, mais on n'a jamais, n'est-ce pas, entendu la majorité dénoncer les recours à cette machine. Apparemment, la machine à voter arrange la majorité.
Nous sommes des compétiteurs. Et entre nous, il y a un arbitre qui est la CENI. Et la CENI tire sa neutralité, son indépendance de la Constitution. Nous devons respecter le choix de la CENI. Et ici, dans ces pays, lorsque nous signons l'accord de la Saint-Sylvestre, eux, ils ont imposé à toute la République que nous puissions organiser 3 scrutins majeurs en un seul jour. C'est eux qui ont demandé à ce que toute la République qu'on organise. Vous avez déjà vu ça dans un pays? Ça n'existe nulle part. Et ils ont demandé à la CENI de nous trouver un moyen technique adapté. Et le moyen a été trouvé. Nous n'avons pas, que ce soit avec la machine à voter, que ce soit avec un autre mécanisme, nous allons les battre. Parce qu'ils ne croient pas en la démocratie, parce qu'ils n'ont pas de leçons à nous donner.
Et le peuple congolais, on peut aujourd'hui, mais c'est John Banza, on peut retirer la machine à voter,
attendez, nous n'organisons pas l'élection, c'est la CENI qui organise l'élection, nous sommes des compétiteurs, nous allons nous plier à la loi, nous allons nous plier aux exigences de la loi.
Il y a aussi parmi ces exigences la libération des prisonniers politiques, les retours des personnalités politiques exilées, la réouverture, n'est-ce pas, de certains médias et l'assistance de la communauté internationale sur les plans politiques, financiers et matériels. Pourquoi, à votre avis, le pouvoir n'arrive pas à accéder, n'est-ce pas, à cette requête de l'opposition, qui n'est pas seulement formulée, n'est-ce pas, par l'opposition? Il y a aussi la CENI, il y a la société civile, il y a même la communauté internationale qui formule la même demande.
Vous savez, vous parlez de tout en même temps. Vous parlez de la libération des prisonniers. De quels prisonniers il s'agit? Des prisonniers de droit commun ou des prisonniers politiques? Il n'y a plus de prisonniers politiques. Ils doivent dire la vérité à la population. Les gens qui sont poursuivis par la justice, ils peuvent s'appeler M. Kazadi, ils peuvent s'appeler M. Bemba ou M. Tshisekedi, ils ne sont pas au-dessus de la loi. La loi est opposable à tous. Nous avons une loi électorale qui a fixé les conditions d'éligibilité. Ceux qui ont rempli ces conditions sont déclarés éligibles. Nous devons aller le 23 décembre. Nous avons un bilan que nous allons défendre. C'est au peuple de nous sanctionner. Nous n'avons pas peur d'être sanctionnés par le peuple.
Et donc, vous voulez dire, M. John Banza, que l'opposition n'a pas à espérer que ça démarre d'où sa requête sera prise en compte par la majorité au pouvoir.
Ça, c'est la diversion. C'est la diversion. Lorsqu'ils ont rejeté le calendrier électoral, est-ce qu'il y avait la machine à voter? Il n'y avait pas de machine à voter. Je peux rappeler, M. Kazadi, en 2005, ils ont appelé au boycott de l'enrôlement. Il n'y avait pas de machine à voter. En 2011, lorsque nous les avons battus, il n'y avait pas de machine à voter. Ce qui est vrai, c'est qu'ils ne veulent pas d'élection. Ce qui est vrai, c'est qu'ils veulent des raccourcis. Et ces raccourcis, regardez la composition de ce groupe-là. 2 rebelles de profession, M. Bemba et M. Moussa, avec un commerçant, M. Katumbi.
Deux rebelles de profession, vous voulez dire quoi par là?
M. Bemba a pris les armes contre ce pays.
Il a toujours fait ça.
Et M. Mboussa, c'est tout ce qu'il sait faire. Et nous vous disons ceci. Le Congo a besoin de la paix.
Mais ils ne sont pas là pour se défendre, malheureusement.
Le Congo a besoin de la paix. Le Congo a besoin que le peuple se prononce. Le peuple va se prononcer le 23. C'est lui qui a des idées meilleures que nous, doit nous affronter devant le peuple. Et le peuple va trancher.
Des rebelles de profession, n'est-ce pas trop fort, M. John Banza?
Oui, mais parce que le schéma est séditieux. Puisque le train est en marche, le train des élections est en marche. Nous ne pouvons pas accepter que les gens puissent remettre en cause les acquis démocratiques, les acquis de la paix que nous avons tous construits.
Merci. Joseph Kongolo, analyste politique, vous êtes aussi coordonnateur du bureau d'études et d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Votre analyse par rapport à cette initiative de l'opposition?
Bien, merci beaucoup. Je salue les co-débatteurs ici. Il y a Maître Peter et Maître Banza. Je voudrais ici, d'entrée de jeu, démontrer que l'environnement politique national fait l'objet ici de conflits. Regardez la démarche, la convergence qu'il y a entre la démarche de l'opposition et la CENCO. Vous allez voir que le fond est le même. La CENCO cherche les appuis nationaux et internationaux pour que le processus soit transparent et qu'on aboutisse à des élections qui soient correctes et qui mettent tout le monde d'accord. Et en même temps, vous allez constater qu'il y a une convergence entre les revendications de l'opposition. Donc les deux convergences entre la CENI entre l'opposition et la CENCO démontre bien qu'il y a un malaise profond, n'est-ce pas, dans le pays qui ronge la République. C'est-à-dire qu'il n'y a pas consensus sur le processus électoral. Ce malaise est clair. Il n'y a pas consensus sur le processus électoral. Or, la gouvernance électorale, c'est toujours une gouvernance de consensus. Il n'y a pas une seule gouvernance électorale dans le monde, dans quelque pays que ce soit, qui ne soit pas consensuel. Pourquoi ? Parce qu'une gouvernance met, n'est-ce pas, en présence les partis contractants. Donc toutes les parties doivent être d'accord sur les règles du jeu. Et c'est cela qui va donner la transparence et en même temps aussi la crédibilité au processus. Malheureusement, c'est l'élément fondamental d'un processus électoral qui manque dans notre processus. Voilà la divergence de vue. Nous avons l'opposition qui conteste la démarche, n'est-ce pas, ou la gestion, si vous voulez bien, la gouvernance, n'est-ce pas, électorale de la CENI. Et vous avez le pouvoir qui appuie la CENI. En même temps, vous avez la CENCO, qui est la société civile, n'est-ce pas, qui est un troisième acteur dans ce processus, qui conteste aussi et qui fait un effort, tout simplement, pour essayer d'harmoniser et de trouver, n'est-ce pas, un consensus. Donc, ça montre bien que, aujourd'hui, la gouvernance de la CENI est conflictogène. Pourquoi ? Parce qu'elle met en face à face, les forces politiques, n'est-ce pas, qui sont censées participer à un même processus. En ce moment-là, je crois qu'il faut ouvrir de couloirs de solutions, et ces couloirs de solutions ne viendront pas d'ailleurs, n'est-ce pas, que des acteurs en présence.
Alors, lorsque vous dites que la gouvernance de la CENI est conflictogène, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? N'est-ce pas les textes, n'est-ce pas, qui donnent le pouvoir à la CENI de pouvoir évoluer, de pouvoir poser des actes de façon indépendante, sans tenir compte de l'opposition ni de la majorité ?
Effectivement, ce sont les textes, mais ce sont les mêmes textes. Il y a le texte fondamental, c'est la Constitution, certes, mais il y a un autre texte qui est tout à fait organique, c'est la loi électorale. Elle est tellement claire, même ceux qui ne sont pas des juristes peuvent facilement comprendre qu'effectivement il y a des écarts entre la démarche de la CENI et la réalité sur le terrain. Donc c'est que l'opposition relève, n'est-ce pas, comme défaut dans la démarche, dans la gestion du processus électoral, je crois que ce n'est pas loin de la vérité. La machine à voter, je crois qu'à partir du mois de septembre ici, on doit déjà commencer l'impression des bulletins et ainsi de suite. Donc c'est ce qui a été prévu dans le calendrier. Donc on ne voit pas la machine à voter. Or, la machine à voter, avoir le processus lui-même, c'est l'élément fondamental de l'élection aujourd'hui.
Voilà, il y a d'un côté ce qui a été prévu dans le calendrier électoral et ce qui est fait effectivement. La CENI dit qu'elle a tout fait en fonction de cette machine à voter. Que faut-il faire maintenant ?
Mais justement, avant de le faire, il fallait lever l'option en cherchant le consensus entre les différentes parties. Donc, parce que la CENI ne l'a pas fait, et cela crée aujourd'hui des problèmes. C'est pourquoi nous disons que c'est vraiment conflictogène et on ne peut pas aller dans un processus électoral, dans un pays post-conflit, n'est-ce pas, aller aux élections dans ces conditions, nous risquons, n'est-ce pas, d'aggraver le conflit. Et vous savez vous-même que dans un pays post-conflit, 5 ans plus tard, si on n'a pas reparé, n'est-ce pas, les plaies, n'est-ce pas, qui ont amené le pays au conflit, nous risquons de retomber encore dans le même conflit. Et là, ça va être beaucoup plus difficile, n'est-ce pas, de raccommoder les tissus, n'est-ce pas, de la civilisation.
Et que répondez-vous à ceux qui pensent que l'opposition est dans une situation délicate, accepter d'aller aux élections dans ces conditions et qui voudrait, n'est-ce pas, à cautionner la tricherie, mais aussi conditionner la tenue de ces élections par l'accomplissement de tous ces préalables, c'est encourager les glissements.
Non, les préalables, ce ne sont pas des préalables pris par une seule partie. Ce sont les préalables convenus qui ont été couchés dans les accords de la CENCO. Donc, tout le monde a accepté ces préalables. Ce ne sont pas des préalables imposés par l'opposition. Ce sont des préalables convenus par toutes les parties en présence. Aujourd'hui, l'effort de la CENCO, c'est la paternité de ces accords qui fait que la CENCO soit à gauche, à droite, n'est-ce pas, au four et au moulin, pour que ce processus aboutisse. Donc, il faut revenir tout simplement aux accords. Et quand on revient aux accords, c'est la voie royale pour avoir un processus qui soit véritablement correct et accepté de tous.
Et à votre avis, il est possible aujourd'hui d'accomplir tous ces préalables sans pour autant retarder la tenue des élections ?
Mais non, qu'est-ce qui va retarder la tenue des élections du moment que l'impression de bulletins, c'est au mois de septembre, c'est fin septembre et le mois de novembre. C'est-à-dire que, en fait, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, il n'y a rien qui puisse bousculer les prévisions, n'est-ce pas, des élections, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui peut bousculer parce que la date des impressions des bulletins, c'est fin septembre et le mois d'octobre. Donc, tout est prévu, ça a été fait dans le calendrier n'a pas été imposé. C'est la CENI elle-même, n'est-ce pas, qui a donné ce calendrier. Je pense qu'aujourd'hui, revenir à des meilleures dispositions d'esprit, c'est rentrer dans les accords et arriver à organiser les élections qui soient consensuelles de manière à mettre le pays sous les rails.
Maître Peter Kazadi, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Kananga.
C'est l'effet Kabila du Kananga au Kassai central. À mon avis, neuf préalables posés par l'opposition congolaise, c'est tout à ce stade. En plus, certains de ces préalables ne sont pas fondés. Ça risque de retarder le processus électoral en cours. C'est le cas, par exemple, de l'exclusivité exigée et la participation à ces processus des autres candidats exclus et invalidés. Cela risque de nous amener à un autre dialogue qui accouchera d'une transition avec possibilité report des élections. Et tout ça va à l'avantage du président actuel qui restera en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu conformément à la constitution congolaise. S'agissant de la candidature commune, je pense que c'est une bonne idée, mais qui sera difficile à pratiquer connaissant sans doute l'orgueil de chaque candidat en liste. Par là, j'ai craint que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, tous les deux candidats validés par la CENI, ne puissent se désolidariser l'un contre l'autre. Car c'est entre ces deux personnalités de l'opposition qu'il proviendra, sauf imprévu, un candidat unique de l'opposition vu leur poids politique dans le pays.
Maître Peter Kazadi.
Oui, j'aimerais, avant de répondre, souligner le fait que j'ai toujours du mal à débattre avec mon ami de la mouvance présidentielle, qui, au lieu de répondre aux questions posées, aux préoccupations de la population, lui, se donne le culot de tomber dans des slogans, des affirmations gratuites, sans les démontrer. Il dit, voilà, cette réunion-là, c'est un complot contre la République. Il ne démontre pas en quoi les Congolais, lorsqu'ils se retrouvent, parlent de leur pays. Cela peut constituer un complot contre la République. Il dirige ce pays, lui et les siens, depuis maintenant plus de 20 ans. Depuis l'avènement de l'AFDEL, ils n'ont rien fait pour la République, si ce n'est que les massacres et les viols de nos mamans. Alors, nous autres, nous réfléchissons pour sortir les pays de ces trous dans lesquels ils l'ont.
Est-ce qu'il y a moyen de répondre à...
Maintenant, pour revenir à la préoccupation de l'auditeur, l'inclusivité. Vous savez, si nous en sommes là où nous sommes depuis 1960, c'est puisque à tout bout de champ, il y a eu toujours des exclusions des acteurs politiques. On a exclu les gens en 1960, Lumumba a été tué, Mobutu a instauré la dictature, a renvoyé d'autres Congolais en exil. Mobutu chassé, Kabila est venu, il a fait de même, il y en a qui sont allés, se sont retranchés à l'étranger, ils se sont organisés pour attaquer les pays, et même ceux qui étaient des fidèles de Kabila, puisque exclus de la gestion de la chose publique, ils se sont aussi retranchés, et nous sommes partis de guerre en guerre. Nous ne devons pas chercher des solutions, des raccourcis. Nous ne devons pas avoir cette habitude de sauter des réalités qui peuvent nous rattraper demain. Aujourd'hui, M. Jean-Pierre Bemba est exclu du processus. On a dit ici qu'il était un rebelle de profession, mais c'est puisqu'on l'a contraint à aller dans la rébellion, encore que l'AFDEL, le pouvoir actuel, est né de la rébellion. Donc s'il y a des rebelles, ce sont ceux-là qui nous ont amené même des étrangers dans ces pays. Et ils pensent qu'ils ont plus de légitimité pour faire la rébellion que les autres. Donc vous êtes en train de pousser des gens à chaque fois à aller dans la rébellion. Voilà pourquoi nous nous proposons que les processus soient les plus inclusifs possibles. Il faut que tout le monde soit là. Pourquoi on doit inventer des critères pour tout simplement empêcher d'autres acteurs politiques à ne pas participer? Moi, je pense que si nous sommes réellement des démocrates, il faut donner la chance à tout le monde de se présenter conformément à la loi. Et que le peuple décide sur le sort d'un chacun. On ne peut pas donc comme ça, pour se faire plaisir à soi-même, et se rassurer, s'assurer d'une éventuelle victoire, chercher à éliminer d'autres acteurs. Donc, le fait d'éliminer les gens aujourd'hui, ils vont s'organiser de l'extérieur où ils sont, ils vont attaquer les pays, nous allons encore tomber dans la guerre. Il faut donc aller à la solution qui est l'inclusivité.
Il y a un autre aspect soulevé par cet auditeur, il dit par rapport à la candidature commune, il pense que ça sera difficile compte tenu, n'est-ce pas, de l'orgueil de chaque candidat de l'opposition en lice. Et puis il est en train de craindre, n'est-ce pas, que Félix et Vital Kamerhe puisse se désolidariser du fait que tout repose sur les deux personnalités là.
Et je crois que les compatriotes peuvent avoir raison. Il y a effectivement un problème d'orgueil personnel. Et puis il y a les poids de chaque camp politique, de chaque parti politique. C'est un problème réel qu'il faut absolument résoudre. Avec un sursaut d'orgueil, un sursaut de patriotisme des uns et des autres pour que finalement nous puissions dégager ces candidats communs. Et moi je crois qu'il est possible à ce que nous puissions aller vers ces candidats communs. Mais moi je souligne en même temps que le vrai problème n'est pas seulement celui d'un candidat commun. Le vrai problème c'est la transparence du processus électoral. Nous pouvons beau avoir un candidat commun. Mais tant que le processus est ce qu'il est aujourd'hui, mené seul par la mouvance avec la CENI, on n'aboutira jamais à des élections paisibles et qui, j'ai toujours dit aux gens, même si on prenait Jésus-Christ, le Fils de Dieu, on les place dans les conditions actuelles, avec cette CENI décidée à aider la majorité à tricher, même Jésus-Christ va échouer. Merci. Donc, d'où pour moi, je propose que les forces vives de la nation puissent unir leurs énergies afin de veiller sur les processus démocratiques, électoraux, de sorte que même si nous allions en ordre dispersé, que les meilleurs gagnent, que celui qui aura été choisi par la population puisse être le futur président de la République.
John Banza, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Isiro.
Je me dis à la Chine, prophète Dieu où elle est. Le préalable est voté par les leaders de l'opposition, le fait qu'il avait recommandé l'IS, le fait que l'Antéco est en train de faire pour avoir de bonnes élections démocratiques et inclusives dans notre pays. Mais chose grave, les amis de la majorité trouvent la démarche de l'opposition et de l'Antéco comme une trahison. À mon avis, si la majorité prie aujourd'hui à un complot de l'opposition parce que les réunions sont tenues à l'étranger, c'est trop. Quand l'espace politique dans notre pays est pris en otage par la majorité. Si seulement si la majorité prête pour les élections, elle doit écouter la voix du peuple.
John Banza.
Je crois que notre compatriote doit se raviser et sa conclusion n'est pas correcte parce que c'est le fruit de la manipulation. Monsieur Kazadi tout à l'heure disait que le vrai problème c'est la transparence. Qu'est-ce que la transparence? Tous les mécanismes assurant la transparence sont assurés. Ils ont évoqué dans leur préalable la question des 6 millions, parfois ils parlent des 10 millions, ils ne savent pas quel est le chiffre exact, des gens qui n'ont pas d'empreinte. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, toutes les listes sont affichées à la CENI. Et lui, M. Kazadi, peut nous citer un seul nom de quelqu'un qu'il connaît, qui est soit doublon ou soit qui n'a pas d'empreinte digitale. C'est de la manipulation. Arrêtez de manipuler la population. Dites la vérité, vous n'êtes pas prêt pour les élections. Vous voulez des raccourcis et nous ne sommes pas... Excusez-moi, vous n'êtes pas prêt pour la manipulation, pour les élections.
M. Kazadi, s'il vous plaît, John Banza qui parle.
Vous n'êtes pas prêt pour les élections. Et M. Kazadi, vous prétendez diriger ce pays, le Congo. Et lorsque vous débutez...
Et le deuxième élément, le deuxième facteur de transparence, M. Banza.
Attendez.
Vous avez évoqué la publication des listes provisoires des électeurs.
Le deuxième élément, c'est que les bulletins, les votes restent un vote des bulletins. Ils ont la possibilité de former les témoins et les envoyer dans chaque bureau de vote. C'est ça la garantie de la transparence.
C'est un défi que l'opposition doit relever. Avoir des témoins dans chaque bureau de vote.
Exactement. Pendant qu'ils sont à Bruxelles, en train de parler à leur parrain, nous sommes en train d'aller à décaisser, parler aux populations. Et lorsque nous allons les battre le 23 décembre, ils vont crier au scandale. Monsieur Kazadi, vous prétendez diriger ce pays, le Congo, et vous parlez avec légèreté en disant que l'inventeur de la machine a voté, c'est le fils de quelqu'un du pouvoir. Ça, c'est ridicule, monsieur Kazadi. Ce n'est pas correct. Dites la vérité. La machine à voter n'est qu'un instrument, mais le vote est manuel. Dites à la population, comment vous pouvez changer ce pays? Quelles sont vos recettes pour l'amélioration des conditions de vie? Ne venez pas nous vanter les schémas séditieux. Vous l'avez avoué tout à l'heure, que lorsque on invente des critères pour exclure les gens, qui a inventé les critères? C'est la loi qui exclut les gens, parce qu'ils ne sont pas, en conformité avec ces conditions. Ne jetez pas des pierres au pouvoir. C'est la loi que nous avons votée avec vous au Parlement. Et autre chose, vous dites que puisque tel est exclu, il va attaquer le pays. Non, vous n'allez pas attaquer ce pays indéfiniment. Ce pays appartient aux Congolais et nous allons les défendre. Vous n'avez pas le droit d'attaquer le pays. Nous allons défendre. Et c'est le 31 ou le 23 où nous serons départagés par nos populations.
Oui, monsieur Joseph Kongolo, vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient de Lubumbashi.
Patrick Mbouli, Katama depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. À mon avis, les neuf préalables soulevés par ces leaders de l'opposition sont loin d'être satisfaits. D'autant plus que certains de ces préalables seront à ce que le calendrier électoral soit bougé et qu'il y ait un autre report des élections, notamment la restructuration de la CENI. Et le peuple n'est pas prêt à accepter un autre report. Je pense que ces leaders de l'opposition doivent se focaliser sur deux choses. Un candidat commun pour ne pas qu'il y ait exception de voix. Et pour nous, un programme ambitieux et rempli d'espoir pour pouvoir convaincre les électeurs. Aller à la contre de ces éléments, c'est tout simplement faire les lits d'un autre glissement qui risque de plonger le pays dans l'inconnu. Car la majorité présidentielle et les FPC ne sont pas prêts à satisfaire ce préalable.
Joseph Kongolo.
Bien, merci beaucoup Patrick pour la question. Ben, je voudrais dire que nous sommes sur un terrain politique. Sur un terrain politique et particulièrement dans un processus de conquête du pouvoir, les comportements des différents acteurs en présence ne doivent pas se fier à ce qui est apparent. C'est-à-dire que la conquête du pouvoir est fondée sur des principes clairs. Et si ces principes ne sont pas respectés, c'est l'effet de puissance, n'est-ce pas? L'effet de puissance qui risque de l'emporter. Donc, c'est bien clair que aussi longtemps que les principes de base ne sont pas stables, ne garantissent pas les mêmes chances, c'est-à-dire les chances égales à tous, c'est difficile, n'est-ce pas, qu'un acteur, n'est-ce pas, puisse s'aventurer dans cette compétition. Donc, c'est tout à fait logique et normal. Je vais vous donner des exemples clairs dans l'histoire. Mobutu est au pouvoir, l'UDPS est très chaude. Il fait venir, n'est-ce pas, des gens de l'extérieur pour faire le sondage d'opinion. On lui dit que dans ces conditions, tu ne peux pas gagner les élections. Il a refusé de les organiser. Parce qu'il savait que dans toutes les conditions, organiser des élections correctes, c'est l'UDPS qui allait les gagner. C'est l'opposition qui allait prendre le pouvoir. Il refuse de les organiser. Donc, de la même manière aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Dans toutes les conditions, tous les sondages démontrent clairement que la situation est compliquée pour le pouvoir et on doit s'offusquer derrière des choses apparemment correctes, n'est-ce pas? On vous parle de toutes ces choses, on cherche une machine qui n'a jamais été prévue, n'est-ce pas? Et pour laquelle, d'ailleurs, vous savez que la certification a été refusée catégoriquement par Nanga, par les certificateurs qui sont venus, n'est-ce pas, de la Grande-Bretagne. Il a refusé de certifier la machine. Donc, tout ça démontre bien que des paris d'autres, il y a des obstacles que les uns et les autres mettent, tout simplement pour éviter que les élections aient lieu en ce moment, parce que tous les sondages ne soient bons dans le sens contraire. Donc, dans l'étude stratégique, il est démontré clairement que le pouvoir aussi n'est pas prêt pour aller aux élections, compte tenu, n'est-ce pas, de tous les obstacles, n'est-ce pas, qu'il a mis sur le chemin du processus électoral.
Maître Peter Kazadi a dit que ce qui importe, ce n'est pas d'avoir un candidat commun, mais plutôt d'avoir un processus électoral transparent. Vous avez suivi la réaction de M. John Banza, qui estime que les éléments qui attestent que la transparence est démise, les éléments sont là, notamment la publication en cours des listes provisoires des électeurs.
Maître Peter a complètement raison. C'est la transparence du jeu qui compte. Il a cité le mot, c'est la transparence du jeu qui compte. Ce n'est pas d'avoir un candidat commun. Regardez, vous avez des éléments qui sont connus de tous. Vous avez 16,6% des candidats, n'est-ce pas, des électeurs, qui n'ont pas d'empreinte. C'est qui a instauré l'empreinte?
La majorité a toujours estimé que ce n'est pas un problème, comme la CENI aussi.
Pourquoi parce ça qu'il y a, ne peut y a, pas être
y a,
un problème
y a, même s'il n'y a pas d'empreinte, mais il y a la traçabilité du fait que les photos de ces gens existent.
Il a été demandé à la majorité d'afficher les listes des électeurs sans empreinte, aux côtés des listes des électeurs. En ce moment-là, on peut faire la différence. Mais aujourd'hui, vous affichez des listes, parce que les empreintes ne sont pas sur les cartes physiques. Les empreintes sont dans la machine, voyez-vous ? Donc, il faut fixer d'abord, arriver à afficher des listes des électeurs sans empreinte. En ce moment-là, on peut vérifier s'ils existent effectivement ou n'existent pas. Mais vous affichez toutes les listes des électeurs. Comment dénicher ? Parce que les empreintes ne sont pas sur les cartes. Comment les dénicher ? Il n'y a que eux et leur machine qui savent que tel électeur n'a pas d'empreinte. Donc, ce n'est pas une solution. Ça,
alors,
c'est pas une solution.
Comment vous entrevoyez la suite du processus électoral avec la persistance, n'est-ce pas, de cette divergence de vue entre d'un côté l'opposition et de l'autre la majorité et la CENI?
Il faut changer la gouvernance de la CENI. Cette gouvernance doit être une gouvernance consensuelle. Il faut être à mesure de mettre les deux parties.
Mais il faut rappeler qu'au sein de la CENI, il y a les délégués de l'opposition.
Oui, écoutez, il y a la ligne politique de la CENI qui n'a rien à voir avec les délégués. Vous avez entendu, d'ailleurs, le délégué de l'UNC, il a élevé la voix pour dire qu'ils n'ont jamais été contactés. Il n'y a jamais eu une réunion avec la plénière pour délibérer sur la machine à voter. Il a dit ça, c'est sur les médias. Ce n'est pas venu de nous. Donc, il a dénoncé, c'est pour vous dire que la ligne politique qui a été prise par la CENI, c'est une ligne politique qui semble être, n'est-ce pas, un peu en contradiction avec certains membres, n'est-ce pas, de la plénière. Donc, ce qui est vrai ici, c'est que il faut que dans la gouvernance de la CENI, qui est différente, qui est une gouvernance particulière, c'est de mettre en présence les différentes parties et de prendre des décisions qui mettent tout le monde d'accord. Au-delà de ça, je crois qu'on risque d'aboutir à un processus chaotique et qui risque aussi d'amener le pays dans la déstabilisation.
Maître Peter, nous allons commencer à conclure, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Et apparemment, la majorité n'est pas disposée à accéder à votre requête. Comment vous entrevoyez la suite du processus électoral?
C'est comme l'a dit juste Valère, Monsieur Congolo, cette majorité n'a pas la volonté de conduire le peuple vers les élections. Ou ils ne veulent pas les élections du tout, ou ils veulent organiser les élections à leur manière. Je disais que Monsieur Banza a l'habitude fâcheuse d'avancer des choses sans les démontrer. Il dit qu'on a affiché, parlant des empreintes digitales, il dit que voilà, l'affichage des listes suffit. Est-ce que sur les listes affichées, on a aussi mis de côté les empreintes digitales? Il n'y en a pas. Or, les empreintes digitales ont été voulues juste pour certifier qu'effectivement, les enrôlés correspondent aux personnes physiques. Il était question de faire qu'il n'y ait pas des gens qui ajoutent des noms sans des empreintes digitales.
Maître Peter, nous sommes en train de conclure. Alors, si les lignes ne bougent pas, si rien n'est fait si, dans le sens de votre demande, qu'est-ce que l'opposition fait? Est-ce qu'elle part aux élections dans ces conditions ou elle fait quoi?
Nous n'allons pas aller aux... D'abord, les élections, c'est un droit pour nous, pour les peuples congolais. Nous allons aller aux élections, mais nous allons aller à ces élections sans machine à voter, sans ce qui est en train d'être préparé pour
Merci.
La fraude.
Merci. Monsieur John Banza, votre conclusion.
Je crois que M. Kazadi dit une chose et son contraire. Il veut aller aux élections et il y a la possibilité de parfaire. Ils ont tous les moyens de recours, tous les moyens à leur disposition pour parfaire le processus. Mais nous avons la volonté d'organiser ces élections. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'en 2005, le MLC avait tenté d'empêcher le processus électoral. Ils sont avec eux en coalition. Ils ne vont pas le faire. Merci. Cette fois-ci. Le peuple, le 23, ça sera la grande fête et le Congo sera debout.
Merci. Joseph Ngolo, en guise de conclusion, un mot, juste un mot.
Il faut revenir à des meilleures dispositions d'esprit pour réorienter la gouvernance électorale et aboutir à des élections qui soient apaisées.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était la technique. Merci à Alain Irung qui a réalisé cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci à la semaine prochaine pour un autre débat.